Et donc voilà, nous sommes sur le 105.4 FM et nous avons, dans le cadre de l'agenda militant, toujours la possibilité de revenir ou de partir sur une initiative militante à Bruxelles. Et pour ce lundi 12 novembre, nous avons l'occasion de parler de la permanence juridique qui se déroule au 123 rue Royale tous les 1er et 3e mercredi du mois, de 16 à 18h. Et pour cette occasion, j'ai donc la participation et la présence de Catherine. Bonjour.
Bonjour.
Et donc voilà, Catherine est juriste et est à l'initiative de cette démarche de permanence juridique au 123. Le petit flyer qui se trouve... tout frais sorti des presses récemment, nous indique « Par les temps qui courent, nos droits économiques et sociaux tendent à s'effacer. Alors ne te laisse pas faire. » Et donc ma question première, c'est « Quelles sont les motivations à mettre sur pied des permanences juridiques orientées sur les droits économiques et sociaux ?»
Suite à la réforme de l'ONEM et aux nombreuses modifications, il est clair que qu'il y a une certaine chasse aux chômeurs qui s'installe, notamment et entre autres, dans le sens où actuellement on est passé dans une dynamique de responsabilisation. Chacun est responsable d'être pauvre et de ne pas avoir d'emploi, et on doit maintenant prouver et démontrer qu'on a droit à les raisons pour lesquelles nous sommes sans emploi. Et donc, on est dans un renversement de la charge de la preuve. On est chômeur. Enfin, il y a une notion de faute qui s'installe. On est chômeur parce qu'on est fautif d'être chômeur. Et on doit démontrer que ce n'est pas de notre faute et qu'on est pauvre sans que ce soit de plein gré. Et l'ONEM a clairement pour objectif de diminuer le nombre de chômeurs et donc d'installer... un contrôle qui est de plus en plus intense, qui est de plus en plus pernicieux, qui s'installe, enfin qui va vraiment chercher loin dans les rendez-vous. Le facilitateur va très loin et ça, c'est beaucoup plus large évidemment que l'ONEM. C'est un contrôle qui s'installe aussi au CPS où on cherche aussi à réduire le nombre d'allocataires sociaux et à réduire les gens qui soi-disant profiteraient et à démontrer ça.
Et donc, c'est une préoccupation par rapport à cette nouvelle réforme, cette armada que mis en place par l'ONEM. Et effectivement, les centres publics d'aide sociale sont devenus des centres publics d'action sociale. Et effectivement, ça montre bien qu'il y a une volonté un peu de mettre les bénéficiaires au centre, mais pas pour les faire sortir de cette situation, mais plutôt pour les rendre responsables seuls et pas un système collectif. Quels sont les effets recherchés en mettant en place ces permanences? Qu'est-ce que vous souhaitez fournir ou entreprendre avec les personnes qui viendraient vous consulter lors de ces permanences 1er et 3e mercredi du mois?
L'ONEM a introduit une procédure afin de... Enfin, le NEM, et ça se passe également au CPS, et ça se passe aussi de manière plus large, l'employeur également. Il y a toutes des procédures qui s'installent de contrôle, de vérification, que les gens soient bien à leur place au bon moment et qu'ils soient bien droits. C'est tout un système de méritocratie où on doit répondre à des efforts donnés et tout ça. On doit contrôler justement que les gens fassent effectivement des efforts. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est informer, quoi. Voilà, on vous demande ça. Vous, si vous avez envie d'avoir ça comme effet, vous devez dire ça, quoi. Par exemple, dire à l'ONEM qu'on fait du bénévolat et que donc, non, on ne reste pas la journée à ne rien faire, est susceptible d'être sanctionné par l'ONEM. C'est une sanction qui peut avoir beaucoup... Enfin, ils peuvent décider de sanctionner alors que... la personne pourrait être de bonne volonté et dire, mais regardez, là, je suis en train de faire une formation, je fais plein de choses. Ce genre de choses, l'ONEM s'en fout, quoi. Eux, ils veulent que tu recherches un emploi qui existe ou n'existe pas ou pour lequel il n'y a pas de place, on s'en fout. Il faut que tu envoies des lettres, autant de lettres. Et voilà, nous, on veut informer sur la procédure, dire, ils vont vous demander ça ou, par exemple, ton assistant social t'emmerde, c'est parce qu'il veut savoir ça, ça et ça. S'il fait une visite domiciliaire, fais attention à ça parce que lui, il va chercher... autant de données. Donc l'idée, c'est juste informer pour que les gens puissent s'organiser de la manière dont ils souhaitent, mais au moins qu'ils soient au courant de ce qui se passe et que le facilitateur n'est pas là pour le faciliter et qu'il ne va pas lui donner un contrat de travail, mais il va lui donner une sanction qui aura la forme d'un contrat. Et comme ça, au moins comme ça, tu es au courant, quoi. Après, chacun s'organise comme il le souhaite.
Et donc, comment se déroulent les permanences? Vous êtes là à partir de 4 heures jusqu'à 18 heures, vous accueillez les gens, vous avez des situations, des cas, comment vous procédez? C'est un peu quoi les modalités de l'accueil, les modalités de questions? Est-ce que vous préservez une confidentialité ou bien au contraire, vous avez plutôt à essayer d'informer, de faire ricocher entre les gens qui viennent? Comment ça se passe concrètement quand, si moi j'ai un cas à exposer et je me sens dans l'embarras, comment je suis reçue, comment ça peut se passer?
La confidentialité, c'est quelque chose de très important parce qu'en plus on est dans un système de culpabilisation, donc on culpabilise les gens d'être pauvres, alors que donc il y a plein de gens clairement qui n'ont pas envie que les papiers soient, enfin c'est des éléments qui doivent rester confidentiels. Après il y a une certaine liberté, si la personne ne souhaite pas que ce soit confidentiel, on peut en parler plus librement parce que chaque cas peut être intéressant pour quelqu'un d'autre et puis on peut faire des parallèles et puis donc il y a des fois où on en a discuté ensemble parce que les gens ne souhaitaient pas spécialement que ce soit confidentiel. Après on part du principe que c'est confidentiel et si on peut l'ouvrir, enfin on peut en discuter entre nous, alors on l'ouvre. Mais c'est pas, enfin je pense que la confidentielle c'est le premier, enfin c'est vraiment important. Et sinon la conférence se passe au premier étage, il y a un petit bureau avec un ordinateur et donc si on veut rechercher ensemble une information, forcément on ne sait pas toujours tout. Et donc on peut rechercher l'information ensemble. Et puis si c'est plus large aussi, parce que nous on cible les droits sociaux parce que c'est la matière pour laquelle on est plus qualifié, mais ça peut aussi être d'autres choses. Ça peut être un contrat de bail ou ça peut être un problème d'énergie. On peut regarder ensemble, pas de souci.
Et donc est-ce que vous travaillez avec des relais? Comment vous aurez orienté les personnes qui viennent se présenter dans le cas où vous êtes vous n'êtes pas suffisamment armé pour les aider? Y a-t-il des structures avec lesquelles vous vous renvoyez ou vous avez confiance pour orienter la personne vers quelqu'un ou une structure qui va pouvoir l'accompagner dans cette question?
Oui, on renvoie parce que forcément on n'est que juriste, on n'est pas avocat, donc parfois pour certaines personnes ça peut être important d'avoir un avocat. Donc dans ce cas-là, on renvoie vers des personnes qui travaillent plus ou moins dans la même optique que nous. Et puis sinon, il y a des structures qui ont un certain, qui travaillent déjà depuis longtemps là-dedans, notamment l'atelier des droits sociaux, qui eux sont relativement compétents et donc et qui sont gratuits et donc dans une certaine, enfin dans la même dynamique en fait.
Oui, c'est ça, vous parlez d'une dynamique et c'est vrai que le tract annonce aussi donc la confidentialité, mais aussi la gratuité. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce choix de gratuité?
Moi, ça me semble relativement évident, dans le sens où je n'ai pas envie d'être dans un rapport salarial avec les gens et que ça me paraît inconcevable de le faire payant, quoi. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai eu plus accès à des dossiers, à certaines lois et que j'ai travaillé là-dessus que je vais faire payer, quoi. Ça n'a pas de sens.
C'est naturellement que ça vient comme ça. Ça n'a pas été pensé. C'est une évidence.
Oui, oui.
Donc voilà, c'est très intéressant de savoir que ce type d'information juridique sur les droits économiques et sociaux est donné gratuitement. Et plus on est nombreux, plus ça permet évidemment de faire partager cette connaissance et cette information sur les droits. Vous menez cette permanence au 123 rue Royale. C'est une occupation précaire depuis déjà quelques années qui est connue pour son engagement par rapport à la lutte pour le droit au logement. Vous avez choisi cet endroit par défaut ou qu'est-ce qui vous anime à le faire au 123 rue Royale?
Disons qu'au 123, il y a déjà un terrain de base. Disons qu'il y a déjà des gens qui habitent et qui sont intéressés par ce genre de projet. Et après, c'est c'est une occupation précaire mais qui est relativement stable. Et c'est plutôt facile, c'est dans le centre, c'est connu. Il y avait un accès avec un bureau, donc il y avait une infrastructure auquel on a facilement accès. Donc voilà, c'est vraiment des raisons pratiques. Et puis surtout, eux sont intéressés par ça. Donc je voyais pas de meilleur endroit et surtout pour lequel on doit rien leur donner. On doit pas participer financièrement, quoi. Donc
c'est donnant-donnant.
Voilà.
Donc c'est les gens aussi du 123 qui vous ont sollicité, qui vous ont dit, on a des gens qui viennent nous voir assez souvent concernant des questions juridiques et tout, faudrait que tu mettes ça en place, ou c'est vraiment une initiative qui est née de ta propre initiative à toi, perso, ou tu réponds à un besoin qui s'est fait sentir?
Non, c'était vraiment par hasard, comme ça. Enfin, j'ai croisé un jour quelqu'un du 123, puis je lui ai fait « Hey, tu trouves pas que ce serait une bonne idée de faire une permanence juridique ?» Et en plus, chez vous, l'espace est assez grand. Donc voilà, c'était juste par hasard, quoi. J'ai vu quelqu'un du 123 à ce moment-là, puis voilà.
La générosité d'une démarche. Non, mais je sais pas. Ça me semble évident maintenant que j'entends ça, la gratuité, le fait de, d'avoir fait des études de droit et de dispenser cette connaissance-là et d'être le plus collectif possible. Moi, j'avais une question pratique. Ça a commencé depuis le mois d'octobre, pas le mois de septembre. Vous avez un petit roulement. Comment ça se passe bouche à oreille? Vous avez un blog, vous avez une adresse internet, un numéro de téléphone. Enfin, comment est-ce qu'à un moment donné, au-delà du rendez-vous premier, troisième mercredi du mois de 4 à 6, comment on peut vous catcher, vous trouver, vous entendre?
Mais donc on a fait un mail dont l'adresse est permjuridique123@bruxelles.org. Donc perm comme permanence et juridique comme juridique, K-E, non Q-U-E, pardon, 123 et Bruxelles avec deux X, E-L.org. Donc sur cette permanence, moi je vais de temps en temps, bon il n'y a pas encore beaucoup de mails, mais ce qui veut dire que si ce n'est pas le mercredi, enfin si les gens ne sont pas disponibles le mercredi, ils peuvent aussi envoyer un mail et on peut répondre par mail. Et aux questions, donc s'il n'y a pas besoin de montrer des trucs ou quoi. Et puis sinon, je suis dans le travail de communication maintenant. Enfin, il faudrait que je fasse un mail pour que ça circule un peu, parce que pour faire connaître.
Donc nous, à l'agenda militant, on va tâcher d'inclure cette permanence juridique dans notre agenda récurrent et d'essayer de faire un peu boule de neige avec cette action de permanence juridique. Et donc à l'occasion, s'il y a de bonnes raisons de revenir à Radio Panique pour exposer un cas qui commence à montrer un petit peu l'envers du décor et aussi de décortiquer la situation de quelqu'un, mais qui permet aussi, comme tu disais tout à l'heure, de faire lien avec d'autres situations, ce sera peut-être l'occasion de revenir dessus quand il y aura un petit roulement derrière,
d'accord.
Enfin, devant, selon, on a le choix. Et peut-être ajouter encore quelque chose pour stimuler nos auditeurs sur cette permanence juridique.
Bon, sentez-vous à l'aise, hein, il faut le sentir. Il ne faut pas se laisser faire et il faut s'organiser parce qu'ils sont là et ils sortent des lois, ils sortent des règlements. Et ils sont prêts, quoi. Ils ont la faucheuse et il faut se défendre.
Donc c'est pour se défendre. Donc ce n'est pas seulement être informé, mais c'est aussi sans doute faire un petit peu une dynamique de groupe. Donc je rappelle les rendez-vous. Donc ce premier, troisième mercredi du mois de 16 à 18h au premier étage du 123 rue Royale à Mille, Bruxelles. Et l'adresse de contact, c'est PERM, P-E-R-M, juridique, J-U-R-I-D-I-K-Q-U-E, 123@bruxelles.org. Et alors, une petite chose précise quand même, parce que même si Radio Panique semble majoritairement francophone, la permanence peut être assurée également en néerlandais.
Oui.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est bilinguisme assuré dans cette permanence juridique. Merci beaucoup d'être venu pour nous présenter cela et en espérant vous revoir prochainement pour voir la suite de cet événement.
Merci à vous.
Merci.